Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Les autres. Du Trisac.
Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez.
Du Trisac.
C'est un livre rigoureux, objectif, qui nous apprend des choses, qui nous aide à comprendre des choses, qui nous rappelle des choses à propos de ce printemps, le printemps le plus long. C'est le titre du livre publié chez Québec Amérique sur ce premier printemps de pandémie en 2020. Alec Castonguay en est l'auteur. Alec, bonjour.
Bonjour Benoît.
Bonjour, bienvenue à Cube Radio, Alec.
Je suis tellement content de te retrouver, ça me fait un petit lourd là. Ouais. On dirait que c'est ouais, ça me rappelle des bons souvenirs.
Absolument, je suis content que tu sois là. Écoute, c'est vraiment, je l'ai dit ce matin avec Mario Dumont, Pierre Nantel, t'es vraiment un de nos meilleurs journalistes. Puis j'ai lu ton livre là, je suis passé à travers, j'ai pris la semaine, j'ai fait semblant d'être malade, mais dans le fond, fallait que je lise le livre. Mais il y a, c'était quoi le but de ce livre là à l'origine? Juste aussi ajouter que la dédicace que je trouve intéressante et touchante, c'est aux victimes physiques et psychologiques de ce virus et à ceux qui se sont battus pour nous en préserver. Je trouve que c'est une dédicace tellement appropriée, Alec. C'était quoi le but du livre?
Le but du livre, c'était de documenter les dessous de la première vague, qui est celle qui a constitué le gros choc là, pour le gouvernement, pour la machine étatique. La deuxième vague, on avait beaucoup de cas, mais le choc, là, les improvisations, les décisions qu'on a dû prendre avec des informations très parcellaires, c'est vraiment dans la première vague que ça s'est déroulé. Donc, je trouvais intéressant d'avoir un document, un ouvrage qui, pour, je l'espère, des années, va permettre de revivre cette crise-là, de comprendre ce qui s'est produit, de la remettre dans son contexte aussi, pas passer son temps à réécrire l'histoire où on en était où en janvier puis en février, qu'est-ce qui se passait vraiment. Et donc de laisser un témoignage de ceux qui ont vécu ça pour que éventuellement on soit capable d'apprendre de cette pandémie là. Puis je trouve que la première vague, elle a été beaucoup plus difficile là, sur la machine étatique que l'a été la deuxième.
Et c'est intéressant, Alec, parce que t'es pas allé voir nécessairement les vedettes connues du monde politique. Là. T'es allé voir les plombiers, les électriciens de l'État québécois, les sous-ministres, les hauts fonctionnaires. Pourquoi t'as choisi cette voie-là pour aller chercher l'information?
Parce que c'est eux qui sont aux commandes de notre État. On les entend jamais, on les voit jamais. Mais un sous-ministre ou un sous-ministre adjoint, c'est eux, en réalité, les boss du ministère. Bien sûr que tu as un politicien en haut, un ministre qui est imputable, qui prend des décisions, mais l'opération, là, une fois que la décision est prise, c'est le sous-ministre qui la met en place. C'est lui qui est aussi pris pour régler les problèmes quand ils se produisent. C'est pas le ministre qui va descendre les échelons puis aller sur le terrain. C'est le sous-ministre adjoint qui règle les problèmes. C'est important d'avoir ce que eux ont pensé de la crise, comment ils l'ont vécu avec les hauts et les bas. Ça, c'est l'une de mes grandes fiertés, c'est d'avoir réussi à convaincre la haute fonction publique québécoise qui ne parle jamais parce qu'ils ont un devoir de réserve, puis on peut le comprendre, de quand même accepter de témoigner puis de nous révéler ce que eux ont vécu. Ça, je pense que ça ajoute beaucoup à la crise pour qu'on comprenne vraiment comment elle s'est vraiment déroulée là dans. Les coulisses, c'est pas seulement la cellule de crise, c'est aussi comment on est sur le terrain puis qu'on opérationnalise des fois des demandes qui étaient pas simples. Ça, je trouve ça intéressant.
Je veux pas révéler le contenu du livre, Alec, parce que comme tu sais, je l'ai pas lu là. Tu sais, je vais selon la page couverture. Mais il y a des à chaque page, on apprend quelque chose. Et tu parles d'abord de l'INSPQ, l'Institut national de santé publique du Québec, je te lis ça là, à la page, c'est 84-85. On dit une source haut placée dans l'une des 18 directions régionales de santé publique ajoute que personne au ministère de la Santé, à l'INSPQ ou à la Direction générale de la santé publique du Québec n'a alors le mandat d'analyser les études publiées dans Le Monde afin d'en digérer le contenu et de traduire les découvertes en stratégies concrètes. Ça explique quoi, le fait qu'il n'y avait personne en charge de lire ce qui se passait ailleurs?
Mais qu'on a une veille scientifique et stratégique assez faible au Québec. C'est-à-dire qu'on voyait bien ce qui était publié dans les revues scientifiques ou ailleurs dans le monde, mais c'était mis dans une espèce de fourre-tout, une infolette envoyée le matin par l'INSPQ aux professionnels de la santé. C'est des hyperliens, pas de hiérarchisation de l'information, pas de décortication aussi à quel point ça, c'est plus important que ça. C'est comme, on vous envoie 20 liens par jour, puis démerdez-vous avec ça.
C'est ça.
Les professionnels de la santé, eux, là, ils ont la broue dans le toupet, c'est déjà le bordel. Puis là, ils n'ont pas le temps de dire, OK, l'étude 6 est plus importante que l'étude 8 que tu nous envoies. Il n'y avait personne vraiment pour être capable de hiérarchiser tout ça. Mm. Puis ensuite, ben de dire, OK, les asymptomatiques, première étude là-dessus, le 30 janvier. Nous, au Québec, c'est à la fin du mois de mars qu'on s'est rendu compte que les asymptomatiques étaient un facteur de contagion important.
Ouais.
Comment on explique ce délai-là? Pourquoi? Ben parce que, bon, on avait effectivement des études un peu contradictoires, on s'est laissé porté par le débat scientifique sans prendre position, puis personne qui s'est dit, hey, si c'est vrai, on fait quoi? On a attendu que ce soit vrai pour finalement dire, waouh, il est un peu tard. Alors que si on avait une veille scientifique et stratégique plus forte, on se serait dit, bon, si cette étude-là, elle a raison au mois de janvier, on fait quoi chez nous dans 2 mois? Mais non, on s'est envoyé un peu tout croche dans un système qui n'était pas vraiment classé. Fait que ça fait en sorte qu'on a peut-être manqué. Ben, c'est plus facile de dire avec le recul, là, c'est sûr, mais on a quand même peut-être manqué des informations qu'on aurait dû digérer plus tôt, puis nous aurait aidé à prendre certaines décisions plus vite.
Ouais, ben justement, Alec, à la page 85, tu ajoutes, jusqu'à la fin mars, les experts québécois douteront de l'impact réel de la transmission de la maladie par les personnes asymptomatiques et pré-symptomatiques. Et tu cites Richard Massé, qui est conseiller médical spécial à la santé publique et bras droit d'Horacio Arruda, qui dit, on peut pas se fier à une anecdote, il faut que ce soit solide. Par exemple, ça commence quand, la phrase pré-symptomatique, l'étude n'en parlait pas, ça prend du temps d'établir un consensus scientifique. Il n'y a pas un principe de précaution à appliquer ici, non? Selon la santé publique?
C'est une très bonne question. Puis d'ailleurs, vous avez d'autres spécialistes en maladies infectieuses qui, dans le livre, disent effectivement on aurait peut-être être plus prévoyant. Je cite entre autres Michael Libman, qui est un spécialiste des maladies infectieuses à l'Université McGill, là, au CUSUM, qui dit on aurait peut-être dû plus rapidement être capable de se préparer. C'est vrai aussi qu'effectivement, il y avait beaucoup de choses qui sortaient pendant cette période-là, qu'il y avait un peu de confusion. L'OMS, qui est le grand organisme mondial chargé de faire un peu justement le consensus scientifique autour de certaines de ces découvertes-là, a pris beaucoup de temps avant de statuer sur les asymptomatiques. Là, ils l'ont confirmé seulement le 2 avril. Puis on s'est fié beaucoup à l'OMS plutôt que de prendre peut-être les devants. Et là, ben, en ce moment-là, on a été un petit peu en retard sur la partie. Donc, on n'était pas les seuls. C'est pas comme si on était une exception. Il y a bien des gens là qui doutaient de ça. Est-ce que les asymptomatiques, c'est vraiment un facteur de contagion important? Finalement, la réponse, c'est oui.
Ouais.
Mais à ce moment-là, ça aurait été des décisions majeures. Si on avait dit, OK, parfait, c'est important, ben là, ça veut dire qu'on peut pas nécessairement donc juste prendre la température des gens à l'entrée des commerces ou aux frontières, parce que si tu as pas de symptômes, tu transmets la maladie. Ça voudrait dire le port du masque très tôt au printemps, alors que dans le fond, on n'en avait pas assez pour tout le monde puis que c'était pas dans notre culture. C'est comme si certaines révélations étaient trop grosses pour qu'on les croie vraiment. On espérait, je pense, un peu secrètement, que ça s'avère pas, puis on s'est fait un peu prendre.
C'est ce que j'aime du livre, Alec, Le printemps le plus long, c'est que tu cherches pas à coincer les gens. Tu les laisses répondre aux questions qui sont très ouvertes, là, mais qui sont assez précises. Et je fais référence à Theresa Tam aussi, là, qui était d'accord avec Justin Trudeau à ne pas fermer les frontières. Je fais référence à Horacio Arruda, qui ne fait pas de mea culpa, là, sur le masque, sur les décisions tardives. C'est-à-dire, t'as pas cherché à pogner le monde, là.
Non, parce que moi, il n'y a rien qui me tanne plus qu'un Monday morning quarterback, comme on dit, là, celui qui essaie de refaire le jeu qui a pas fonctionné pendant la fin de semaine, là, et qui dit oh, moi, j'aurais donc fait ci, j'aurais donc fait ça. Moi, je suis pas un expert en santé publique. Je suis un journaliste politique. Mon but, c'était pas de faire un essai où je vous explique ce j'aurais pensé ou j'aurais voulu ou j'aurais dû. Non, ça, je trouve que ça n'a pas vraiment d'importance parce que chacun a le droit à son opinion. Par contre, l'opinion des gens va se former en lisant le livre. Il y a des constats qui me semblent quand même clairs. J'ai pas besoin de les écrire en toutes lettres, en grosse capitale, là, pour dire voici ici, on l'a échappé. Je pense que c'est assez clair dans certains volets du livre qu'on a échappé le ballon. Puis j'ai pas besoin de l'enfoncer. J'ai juste posé les questions, remis la séquence dans l'ordre, puis on le voit bien qu'on a échappé certaines choses. Puis moi, mon but, c'était pas de faire un brûlot, c'était d'expliquer comment les gens l'ont vécu puis comment ils expliquent certaines des actions qu'on a prises. On a aussi fait des très bons coups, on en parle moins, c'est normal, les bons coups passent un peu inaperçus, mais on a aussi fait des mauvais coups, puis dans ma tête, là, juste de les laisser s'expliquer, c'est suffisant pour que les gens comprennent ce qui s'est passé.
Mais avec 50% presque des morts à travers le Canada qui se passent au Québec, on peut pas dire qu'on a fait beaucoup de bons coups non plus.
Non, parce que le virus a tellement frappé fort nos plus vulnérables dans les CHSLD, parce que c'est le parent pauvre du système de santé depuis longtemps, parce qu'on a collectivement décidé que les grandes résidences pour personnes âgées puis les CHSLD, c'est un bon modèle, plutôt que de garder nos personnes âgées à la maison. On a sous-investi dans les soins à domicile par rapport à d'autres endroits dans le monde. On a fait des choix qui ont fait en sorte que, oui, on a aussi pris des mauvaises décisions. Ça a pris beaucoup de temps avant qu'on dise au personnel dans les CHSLD de porter des masques en présence des patients. Donc, on a fait des erreurs tactiques, mais on avait déjà comme mis les fondations pour que ce désastre-là se produise. Et clairement, on avait depuis des années préparé ça là, sans évidemment le souhaiter. Alors, non, on n'a pas fait que des bons coups. C'est clair qu'on a eu effectivement un bilan très lourd par rapport à d'autres endroits. Pas le plus lourd, mais certainement au Canada.
Un des bons. Lourd, là, oui. OK, trois dernières affaires, le Castonguay, là, avant qu'on se quitte. Là. D'abord, j'ai l'impression, puis j'espère me tromper, mais ton livre va porter un coup assez fatal à la carrière politique de Marguerite Blais. Je sais pas si tu t'en es rendu compte, là, mais tu as écrit beaucoup, là. Page 51, 99, 111, 236, 241, 249, 267, 333. Tu parles de Marguerite Blais et jamais, jamais on la voit prendre des décisions. Pire que ça, à la page 51, tu parles de cette rencontre des 34 centres intégrés de santé et services des CSS, là. Tous les PDG sont là. Les pendants universitaires sont là. C'est une rencontre au sommet. La ministre de la Santé est là. Qui manque? Lionel Carman, Marguerite Blais. Et quand Horacio Arruda fait son discours important au gouvernement, elle est aussi absente. Elle est en Floride en vacances. C'est fois après fois. Puis on se rappelle qu'elle venait de visiter 100 CHSLD avec comme conclusion, on va mettre 5 millions pour les redécorer.
Ouais, mais c'est clair qu'il y a des moments charnières dans l'évolution de la crise où elle n'était pas. Effectivement, ces réunions-là, j'ai obtenu les procès-verbaux où je voyais donc les présences et je voyais qu'elle était absente. Est-ce qu'elle aurait dû y être? Bon, il y a des moments où on a ajouté la question de la COVID à la dernière minute, c'était pas à l'agenda. Comment ça se fait qu'elle n'a pas pu revenir de Floride à temps pour cet effectivement briefing-là très important au bureau du premier ministre le 9 mars? Est-ce que les vols étaient pleins? Est-ce qu'elle a pas voulu? J'ai pas eu d'explication par rapport à ça. Je lui ai posé la question. Elle s'en souvenait plus pourquoi elle n'avait pas pu revenir à temps. Donc, il y avait aussi l'autre aspect. Il y avait son ce qu'elle a le fait ou elle a pas fait. Puis il y avait aussi qu'on lui portait pas tant d'attention que ça non plus dans la cellule de crise parce que jusqu'à la mi-avril, les CHSLD, c'était pas ce qu'on suivait de plus près. On suivait les hôpitaux, les soins intensifs. On voulait pas que les hôpitaux débordent. On considérait les CHSLD jusqu'à la mi-avril comme des solutions dans le réseau de la santé et non pas comme un problème potentiel. On a envoyé 2000 patients qui étaient dans les hôpitaux vers les CHSLD en se disant ils vont être plus en sécurité dans les CHSLD. Au lieu de les barricader contre le virus, on s'est dit le virus ne rentrera pas. Ça a été une erreur monumentale. Ça, c'est pas Marguerite Blais qui a pris la décision. Les sous-ministres adjoints. Puis elle avait beau plaider, faire des dépistages plus massifs, envoyer des équipements de protection individuelle. Ben, elle n'avait pas l'ascendant que un ministre ou une ministre de la Santé a. Elle n'avait pas du tout l'ascendant qu'un sous-ministre peut avoir. Les CHSLD, ça n'a pas le puissant lobby des médecins en arrière d'eux autres. Hein? C'est pas comme les hôpitaux. Alors,
Mais Alex, si t'es absent des rencontres importantes, c'est sûr qu'on n'écoutera pas ce que tu as à dire. T'étais pas là quand c'était le temps.
C'est vrai que dans la préparation de la crise, on peut pas dire que ça a été une préoccupation constante là, que de s'occuper des CHSLD. Puis effectivement, il y a certaines réunions qui se sont avérées importantes où elle n'était pas présente. Ceci dit, sa chef de cabinet, elle était présente dans certaines de ces réunions-là. Ouais. Il y avait donc quelqu'un qui s'occupait des CHSLD, mais c'était pas la ministre en titre.
OK. En tout cas, c'est le printemps le plus long chez Québec Amérique. C'est en librairie là?
Oui, en fait, cet après-midi, là, si les libraires ouvrent les boîtes et les mettent sur les tablettes, ça devrait être cet après-midi. Sinon, plus tard, demain matin, ça va être
arrivé. Puis il y a des bouts drôles hein, aussi. À la page 327, Alec, tu parles de à cause de la distanciation physique, il y a un ascenseur supplémentaire qui est réservé au premier ministre. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on embarque dans cet ascenseur-là?
Écoute, au bureau du premier ministre à Montréal, sur la rue McGill, il y a un ascenseur qui est réservé en temps normal uniquement pour le premier ministre et son chef de cabinet, pour que ça aille plus vite, qu'il n'y ait pas besoin d'attendre avec les autres pour monter à son étage. Évidemment, comme on avait besoin d'espace, on l'a ouvert un peu à tout le monde pour que les gens soient capables d'avoir plus d'espace dans les ascenseurs. Or, quand Jean Charest a quitté le pouvoir à l'époque, en 2012, il voulait faire une blague à Pauline Marois, donc il a convaincu le gestionnaire de l'immeuble d'enregistrer sa voix pour annoncer les étages. Donc, premier étage, deuxième étage, troisième étage, un peu avec la voix nasillarde de Jean Charest. Je suis pas aussi bon qu'Antoine Robitaille pour imiter Jean Charest, mais on entend donc Jean Charest annoncer les étages. Et ça n'a pas changé depuis. Ce qui fait qu'il y a bien des employés du cabinet du premier ministre qui prenaient cet ascenseur-là pour la première fois.
Ouais.
Puis là, ben ils montent, puis ils entendent Jean Charest annoncer quatrième étage. Puis là, écoute, eux autres, ça les a fait éclater de rire parce que ça fait deux mois que tu gères des catastrophes, des mauvaises nouvelles. Puis là, soudainement, t'as comme une espèce d'éclair d'humour, là, parce que c'était quand même un bon coup. Là. Soyons honnêtes, là, en politique, changer sa voix pour faire annoncer les étages à ton successeur, moi, c'est parmi les bonnes blagues politiques que j'ai entendues.
Ouais. Ben, justement, Alec, on l'a, Jean Charest, avec nous. Monsieur Charest, bonjour.
Bonjour, comment ça va, Benoît?
fais-nous donc une coupe d'étage, Monsieur Charest.
Premier étage, deuxième étage. Moi, je trouve ça bien intéressant. Tu sais, je l'ai pas lu, le livre.
Comme d'habitude.
D'Alec Castonguay, comme le rapport du Chêneau que j'avais pas lu.
T'sais. Non.
Mais ça me semble très intéressant. Ça m'a rappelé des beaux souvenirs. En tout cas, de vous écouter les gars.
Bon, OK, merci.
Je vais aller faire cuire du canard.
Oui, c'est ça. Faites-nous une bonne recette du barbecue. Bon, alors, je voulais juste vous réunir, vous deux, là, parce qu'on a passé des bons moments ensemble, quand même, quand on faisait l'émission du midi.
Neuf années de grand bonheur radiophonique. Je m'en rappelle encore comme si c'était hier. Je referais ça n'importe quand. On avait vraiment beaucoup de plaisir les trois ensemble.
Oui. Ouais. Ben, écoutez, dernier
salut,
mot.
Alec.
Mais c'est à lire Le printemps le plus long. Vraiment, Alec Castonguay était un de nos meilleurs au Québec. C'est bien écrit, c'est objectif. On apprend des choses. Et vraiment, je le répète, t'as pas cherché à pogner le monde. T'as juste cherché à expliquer ce qui s'est passé. Ouais. Et ça a beaucoup de valeur en termes journalistiques. Fait que merci, Alec, de ce livre. Puis j'espère qu'on va se reparler.
Ben, écoute, merci beaucoup. T'es bien gentil. À bientôt.
Ça marche. Ciao.